je rêve le jour que mes enfants vont être capables d'être des leaders au niveau culturel, au niveau de leur nation. Moi, je danse. Je fais de la gigue également. Je gigue un peu partout au Canada.
Bonjour et bienvenue au balado Franco Loops, présenté par Infonews.ca. Je suis Jamie Shinkowski et je vise à apprendre pourquoi dans notre ville anglophone à Kamloops, est-ce que la francophonie est toujours importante? Mon invitée pour cet épisode est une femme extrêmement passionnée à ses cultures. Elle met un énorme effort dans sa vie professionnelle et personnelle de préserver et rehausser toutes les cultures qu'elle représente. Et en 2022, elle est devenue la directrice provinciale de l'éducation autochtone avec le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Bienvenue au balado Francolips, Bonnie Lépine. Antoine, comment vas-tu aujourd'hui?
Oui, ça va bien. Bonjour, Jamie.
Un vrai plaisir de t'accueillir à ce projet parce que tu es la première franco-colombienne qui va faire partie du projet balado. Et toi, comme moi, tu as grandi en Colombie-Britannique. Alors, à ce point-là, pourquoi pour toi est-ce que la francophonie est importante?
La francophonie minoritaire, je dirais, est très importante pour moi parce que j'ai grandi sur les territoires de Lekwungen, donc Victoria, toute mon enfance, et de parents, donc je viens d'une famille exogame, donc maman qui vient de Québec et papa qui est anglophone avec des racines francophones, entre autres. Donc ma communauté, dans le fond, ma communauté francophone, c'était l'école. Surtout en Colombie-Britannique, parfois, tu sais, si on veut comparer les autres provinces, l'Alberta ou la Saskatchewan, eux autres, ils ont des petits villages francophones. Si on parle de Saint-Louis, Bellevue, Gravelbourg, tu sais, on a vraiment des communautés francophones. Et c'est un peu différent en Colombie-Britannique. On a eu des gens qui se sont déplacés du Québec ou de, non, je parle de la francophonie plurielle, d'un peu partout dans le monde, pour s'établir. Donc, moi, je faisais partie d'une école qui était à la base militaire à Victoria. Donc, c'était une des premières écoles du Conseil scolaire francophone, mais dans le temps, c'était le programme cadre. J'ai grandi dans ce programme-là et pour, en fait, garder mon identité francophone, qui est, dans le fond, québécois et françaisois, si tu veux, franco-métis de la Saskatchewan, mais que j'ai grandi en milieu minoritaire. Donc, je suis la première génération ici en Colombie-Britannique des franco-britanno-colombiennes et j'en suis très, très, très fière.
Et tu as décidé de poursuivre une carrière, de rester dans ta communauté aussi.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, je suis métisse. Alors, quand on parle métisse, Métchif, je dis dans ma langue, la langue Métchif, on dit les Métchif. Donc, on est un peuple qui relève la Rivière Rouge, donc les peuples de l'Ouriel. Et on a eu notre territoire un peu enlevé de Winnipeg. Et on s'est déplacé, on vivait sur le bord du chemin. Et on s'est déplacé vers Batoche. Et donc, je viens de cette communauté-là. Et puis ma mère, elle a des racines Wendat, donc je suis aussi autochtone. Donc je valorise ma culture francophone, mais je valorise ma culture autochtone. Et puis mes enfants également, ils sont nés sur ce territoire-là, Secwekmek. Alors ils ont trois cultures autochtones et francophones minoritaires. Puis c'est ça, j'ai grandi un peu là-dedans. Puis c'est important pour moi de continuer. Tu sais, je ne savais pas trop ce que je voulais aller dans ma carrière. Et j'ai décidé d'aller dans l'enseignement. Donc, ça fait 17 ans que j'enseigne pour le Conseil scolaire francophone. Je suis une des premières, en fait, à revenir, des anciens élèves à revenir enseigner pour le Conseil scolaire francophone il y a 17 ans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de changer un peu ma carrière et aller plus avec ma passion. Je voyais que le Canada était prêt pour aller vers la réconciliation et pas juste l'éducation autochtone qui se passe dans nos salles de classe. Et donc, j'ai commencé comme la directrice de l'éducation autochtone. Et tout nouveau, cette année, ils m'ont rajouté la directrice de la réconciliation et de l'éducation autochtone. Et ils m'ont déplacée, en fait, je siège sur le comité exécutif du Conseil scolaire francophone parce que le CSF veulent aller devant vers la réconciliation. Puis ils savent que nos institutions d'école sont sur les territoires traditionnels des premiers peuples. Donc, tu sais, je dis tout le temps que les peuples autochtones sont plus qu'un bricolage dans nos salles de classe. Ils ont des titres et des droits sur le territoire qu'on a mis nos établissements et ils ont un cerveau pour faire promouvoir un peu leur culture, mais aussi leur façon de penser, leur perspective, leur façon d'être sur ce territoire-là, en tenant compte de la nature autour d'eux. Donc, c'est un peu la voie que j'ai prise dans ma carrière. Et tout récemment, je travaille avec Radio-Canada, je fais des présentations un peu partout comme conférencière à travers le Canada, en plus de mon poste au Conseil scolaire francophone. Donc, au Conseil scolaire francophone, on a quand même 48 écoles partout dans la province. Et donc, je dois consulter et créer des liens avec plus de 60 communautés autochtones dans la province. En Colombie-Britannique, on parle de 209 communautés autochtones et nous, notre conseil scolaire, se retrouve sur à peu près 60 communautés dans leur région locale. Et donc, un conseil scolaire normal va gérer ou va créer des liens, pas gérer, mais tisser des liens avec les communautés locales, environ vers 2 à 7 communautés qui viennent d'une nation. Et nous, c'est très complexe parce qu'on est partout dans la province.
Et je sais aussi, tu avais mentionné au passé que en embarquant dans une carrière en enseignement, tu n'avais pas nécessairement en tête de prendre un poste de même, mais maintenant, ça doit te donner la chance de non seulement représenter tes cultures, ton héritage à toi, mais aussi apprendre à propos de toutes les autres communautés, Premières Nations dans la province, et les représenter aussi.
Oui, donc moi j'étais très bien en salle de classe, puis j'ai toujours enseigné les perspectives autochtones dans ma salle de classe en milieu minoritaire. J'étais très fière d'être francophone en milieu minoritaire. Mon accent de l'Ouest, et tout le monde dit « Ah, t'es-tu anglophone? » Je dis « Non, ben oui, je suis anglophone, mais en fait, j'ai pas de racine anglophone. Je suis francophone, mais on parle comme ça, dans le fond, c'est notre accent de l'Ouest. » Et puis, tu sais, il y a un moment très, très spécial qui a eu lieu dans ma vie. Puis c'est quelqu'un qui est décédé, en fait, Éric Boisvert, qui était un membre de notre communauté, enseignant ici à l'école. Il m'a nominée pour un poste, un prix d'excellence en enseignement. Puis c'était surtout pour mes perspectives autochtones en salle de classe avec TFO et IDELO. C'était un prix d'excellence en enseignement à travers le Canada. De plusieurs candidats, là, je pense qu'il y avait des centaines, j'ai remporté le prix numéro un.
Premièrement, félicitations.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai remporté ce prix-là. Puis là, j'étais surprise. Je ne savais même pas si c'était lui qui m'avait nominée. Mais le jour au lendemain, ma carrière a changé. Parce que là, on a mis en valeur quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui est autochtone en milieu minoritaire et qui vit sur une réserve également. Donc, je pense que ça a juste changé, puis j'ai eu Radio-Canada, j'ai eu TFO, j'ai eu plein d'opportunités à la suite. Et cette même personne m'a encouragé à postuler sur un poste qui était un programme, bien, un poste cadre au CSF, de directrice au plus haut placé là, au CSF pour aider à passer ma passion que j'avais dans ma salle de classe, dans toutes les salles de classe au Conseil scolaire francophone. Donc, j'aimerais juste remercier cette personne-là qui est malheureusement décédée il y a quelques mois, mais ça a vraiment changé ma carrière parce qu'il croyait, tu sais, en moi. Ça, dans notre vie, ça prend des gens comme ça. Ça prend des amis, ça prend des collègues qui croient en nous pour qu'on puisse s'améliorer, se perfectionner dans nos passions et nos dons qu'on a, qu'on est né avec, en fait. On a tous des dons, puis c'est important. Tu sais, je crois beaucoup qu'on travaille, mais souvent on travaille pour le soi, pour notre but personnel, pour notre famille, tu sais, nous. Mais une perspective autochtone, c'est aussi de donner et de travailler pour la communauté, pour bâtir la communauté. Puis lorsqu'on réussit à être capable de trouver notre passion, ben la vie est jolie, la vie est beau.
En tant que famille, vous mettez un énorme effort pour transmettre toutes ces cultures-là à vos enfants. Alors, comment préserver trois cultures minoritaires en même temps pour vos enfants? Ça doit être un vrai défi.
Oui, en fait, tu sais, je me rappelle quand j'étais petite, je savais que j'étais métisse, métchif, je savais que j'avais des racines Wendat, mais je me retrouvais en milieu minoritaire, je présente blanche. Je suis une femme qui présente blanche, quoique, tu sais, ma soeur et mon frère sont beaucoup plus foncés que moi. Donc, mon identité, j'étais comme perdue dans ma vie un peu. Et je sais qu'on allait souvent au centre d'amitié, qui nous aidait à l'école à nous retrouver, retrouver nos racines. Mais pas mal tous les peuples autochtones au Canada sont en croissance de se retrouver et de garder nos savoirs traditionnels. Donc pour moi je pense que pour avoir une appartenance et de grandir en santé, il est essentiel, surtout comme rôle de femme dans une famille, dans un foyer, que je joue le rôle de la mère pour transmettre cette culture-là. Mais pour être capable de la transmettre, je dois la connaître. Et donc, j'ai passé 15 ans de ma vie à m'approprier ma culture métisse, ma culture moins Wendat, non, parce que je suis non-statut Wendat, quoique je pourrais avoir le statut aujourd'hui. C'est juste qu'on ne peut pas être métisse et on ne peut pas avoir une double identité Première Nation autochtone. Alors, il faut qu'on choisisse. Donc, on a toujours été métisse, j'ai toujours été citoyenne métisse, donc je n'ai jamais appliqué pour ma carte de statut, mais quoique aujourd'hui, avec les règles de discrimination contre les femmes, pour le droit de la loi sur les Indiens, je pourrais avoir droit à le statut. Peu importe, ça, c'est des affaires qui sont politiques. Je sais qui je suis, moi.
Ça ne prend pas une carte pour dire qui tu es, au fond, non
c'est
plus.
Ça ne prend pas une carte pour dire qui je suis. Je sais qui je suis, qui est important. Donc, j'étais très, très, très impliquée au niveau politique il y a 20 ans, politique métisse. Puis j'étais tout le temps impliquée au niveau politique. Mais je me suis dit, ce n'est pas la politique qui va faire en sorte que mes enfants vont connaître leur culture. Je me suis complètement enlevée de la vie politique métisse pour élever ma famille. Et pour élever ma famille, je devais m'asseoir pour connaître la culture de mon mari, qui est Sequoyamec, qui est chef de la nation Stockstouse, donc qui est à Cache Creek, donc Bonaparte, la bande Bonaparte, qui sont parmi les 17 communautés Sequoyamec dans l'intérieur, les Salish intérieurs. Donc, j'ai dû m'approprier un peu sa culture, j'ai dû m'approprier un peu, bien, continuer de m'approprier ma culture et pour être capable de le transmettre à mes enfants. Parce que si on n'a pas la langue, si on n'a pas la culture, on n'est rien, dans le fond. Notre culture va pas, on va être vraiment une génocide, on va disparaître. Et donc, j'ai pris un moment, un grand moment de ma vie, 15 ans de ma vie personnelle, pour m'approprier, m'asseoir avec des Indiens tous les jours dans un centre culturel sur la réserve à Little Shuswap. Alors, c'est là où on vivait. Donc, à tous les jours, j'allais au centre, m'asseoir avec des Indiens, apprendre à coudre, apprendre à perler, apprendre un peu leur langue, apprendre à faire des cradle boards, où ce qu'on met nos bébés traditionnels, apprendre à faire des paniers en bouleau. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à faire du tannage de peau. C'est vraiment ma spécialité. C'est vraiment le tannage de peau, de n'importe quelle peau, là. Donc, ce processus-là pour faire et développer le cuir. Donc, sans ça, ben je pourrais pas rien transmettre. Et donc, on a un rôle. Quand on parle de la réconciliation, nous, on doit aussi se déconiser et apprendre qui qu'on est. Donc, c'est ça. Donc, c'est très important. Puis, je rêve le jour que mes enfants vont être capables d'être des leaders au niveau culturel, au niveau de leur nation, puis de dire que c'est correct, je suis qui je suis, et il ne faut pas avoir honte d'être francophone, il ne faut pas avoir honte d'être Sequoyamec, il ne faut pas avoir honte d'être Wendat, il ne faut pas avoir honte d'être métisse surtout. Donc, je rêve que je veux créer une autre force chez nos jeunes autochtones. On a quand même, c'est entre 500 élèves, ça va de 600 à 500 élèves. Au CSF, on a des autochtones francophones qui viennent de l'Est, pas mal. On a à peu près 40 qui viennent des communautés locales, ici en Colombie-Britannique. Mais je rêve qu'eux, ils peuvent se tenir debout puis dire « Je suis fière d'être un franco-autochtone en Colombie-Britannique. »
Et pour vous autres personnellement, vos enfants sont élèves à l'école francophone ici, alors voilà une façon de transmettre la francophonie. Je sais qu'ils apprennent les danses traditionnelles, de la musique aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites pour transmettre ces cultures-là?
Oui, alors, on va passer, c'est ça. Donc, mon fils, il danse le cerceau. Alors, les danses du cerceau qui relèvent de la nation Hopi des États-Unis. Mais dès qu'on peut transmettre des cultures, c'est comme ça qu'on est au Canada. Donc, nous, quand il va parler, il va souvent dire que je fais une danse qui relève de la nation Hopi, mais qui a été éduquée et transmise ici en Colombie-Britannique, puis il y a quelques danseurs ici. Et donc, il danse cette danse-là. On fait de la gigue métisse et souvent les gens vont dire, ben parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des racines métisses, ils vont dire « Pourquoi ils font de la gigue métisse? C'est quoi ça? » Qui ressemble un peu à la danse carrée, mais qui est plus vite en fait. Les pas sont plus vite. C'est un mélange entre le powwow et la danse carrée canadienne-française. Et donc, tout le monde ici dit « Pourquoi ils dansent ça? » Ben là, puis mon mari dit tout le temps « Ben, ils sont métisses. » Il ne faut pas juste dire que… Il ne faut pas juste isoler puis juste enseigner la culture qui est Sequoyamec. Ils sont également et autant métisses. Et donc, ils font la gigue. Ils apprennent la langue Sequoyamec-Chine. On prend un peu métchif, pas beaucoup. Ils apprennent le français ici à l'école, puis leur culture canadienne-française, québécoise, dans le fond. C'est une culture québécoise qui on est issu de ça. Et puis, ma fille a fait beaucoup de perlage. Sequoia, ils m'aident parfois pour faire du tannage de peau, là, soit de l'orignal ou de chèvre. Pas de chèvre, mais de chèvre, excuse-moi. Je pourrais quoi que faire à chèvre, mais c'est pas celui-là. C'est pas mal ça, les danses qu'on fait, nos danses traditionnelles. On fait nos danses traditionnelles, traditionnelles, et puis on fait des chants au tambour. Alors souvent, c'est quoi il est demandé. Et, ainsi que Maya, mais dans notre culture traditionnelle, on a des rôles. Les femmes ne jouaient pas nécessairement au tambour, ils chantaient, ils dansaient à la place. Et donc, c'est vraiment Sequoia qui a le tambour, qui joue au tambour. Et puis ma fille, ben, elle chante les chansons traditionnelles de bienvenue, les chansons pour honorer des gens. Et puis, j'essaie le plus que je peux que ça soit authentique, que ça va vraiment leur culture traditionnelle. Mais, quoique, on a également le powwow. Donc, le powwow, c'est quelque chose qui est très, qui a été adopté par la culture Sequoiamec. Alors, on le voit ici à Tecamloops. Il y a le powwow, un des plus grands au Canada, en fait. Et donc, ma fille a fait la danse du jingle, puis mon fils, il fait la danse grass dance. Alors, je ne sais pas la traduction de ce mot-là ou de cette danse-là, mais il fait ces danses-là. Donc, on participe un peu partout au Canada. Donc, les powwow, ça a été un peu répandu. Ça vient des communautés Anishinaabe, donc, qu'on retrouve plus en Ontario, mais qui a été un peu propagé au Canada, un peu partout. Donc, comme j'ai dit autrefois, une fois que quelqu'un te l'enseigne, maintenant, ça t'appartient et tu peux le faire un peu dans votre région également. Donc, oui, on peut parler d'une culture pan-canadienne autochtone, mais on essaie de quand même garder des danses traditionnelles des régions à travers ces powwows-là, qui est très connu dans les prairies, qui viennent des prairies dans les nations Nihio. Donc, Nihio, c'est les peuples cri, leur langue. Tu sais, le mot cri, on a quand même des racines. Quand on est métisse, on est mélangé francophone et Nihio, donc cri. Cri, ça vient des Français qui ont dit « Ah, tu sais, les cri ». Donc, on devrait théoriquement plus utiliser ce terme-là. On devrait utiliser le terme Nihio, qui est vraiment dans leur langue traditionnelle.
FrancoLoops est présenté par infonews.ca. FrancoLoops is presented by infonews.ca, the Thompson Okanagan's number one online news source. Your best local investigative articles. Sign up today for their newsletter and receive the top trending stories directly to your inbox. For more information or to read today's top stories, visit infonews.ca.
Vous voulez entendre plus de contenu franco-colombien comme FrancoLoops? Le balado Franc-Ouest a déjà 19 épisodes de sa première saison, Francophonie sauvage, qui sont maintenant disponibles en intégralité sur webouest.ca. Je m'appelle Patrick Lac et depuis 2 ans, je vais à la rencontre des francophones fascinants de l'Ouest. Voici un extrait de l'épisode « Entrepreneuriat, vie de couple et BLT » selon Sonia Raté de La Baguette.
L'ambiance, c'est... on se prend pas pour d'autres. On accueille le monde. On est une boulangerie, un café, un watassir et tout. C'est chill. On n'est pas pincé. Tu trouves la bonne qualité, mais avec des bons prix. Bagel maison, bacon, lettuce, tomato, pour 4 et quelques. T'sais, mais ça devrait se vendre pour 8 $. Mais en tout cas, mais faites maison, ça goûte bon, puis c'est confortable. C'est La Baguette. Je sais dur à expliquer. on a des influences du Québec. T'sais, c'est sûr qu'on a des crotons. Je fais un bagel avec des crotons de la moutarde, on appelle le Québécois. Et là, ben, c'est pour ça aussi qu'on était occupés, parce que les Québécois se comprennent dans La Baguette, les Français aussi, aussi les anglophones. Fait que un peu tout le monde aime quelque chose à La Baguette, for sure.
Saviez-vous que?
Saviez-vous?
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 Saviez-vous que?
Un petit village au nord de Kamloops a un nom francophone. Le nom est Barrière. Barrière a été nommée en 1828 pour des commerçants de fourrures francophones. Les commerçants ont pensé au nom Barrière parce qu'ils ont vu une barrière de roche dans la rivière de la région. Cette barrière a probablement été créée par des peuples autochtones pour pêcher et attraper des poissons. Le musée de Kamloops croit que la personne qui l'avait nommé s'appelait Archibald MacDonald. Il a nommé la ville après avoir créé et dessiné une carte décrivant une barrière de roche dans la rivière.
Le segment « Saviez-vous que? » a été écrit et enregistré par les jeunes francophones de Kamloops et sa région. Merci à Juliette Loving de nous avoir parlé de la village de Barrière. Je voulais aussi te demander, parce que tu as mentionné énormément des aspects culturels, tu as mentionné le tannage des peaux. Est-ce que tu as un aspect préféré de ces cultures? Est-ce que c'est le tannage des peaux? Peux-tu
oui,
même choisir?
Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime? Bien, j'aime moi, je danse. Je fais de la gigue également. Je gigue un peu partout au Canada. Donc, c'est comme des danses carrées un peu plus vite, par contre. Et puis, donc, j'ai une troupe de danse ici à Kamloops qui s'appelle Les Mischiefs. Donc, avant, c'était Les Mischiefs Buffalo Girls, mais on a changé le nom pour que ça soit plus inclusif, en fait. Donc, c'est Les Mischiefs des Jiggers, les Jiggers. Donc, on a changé le nom pour inclure tout le monde, dans le fond, peu importe leur identité. Mais parce qu'on réalise qu'on n'est pas juste des filles, que parfois on a des hommes qui dansent avec nous et tout. Donc, c'était ça. Mais donc,
je devrais dire aussi, vous avez dansé pour une activité communautaire
oui.
pendant le mois de la francophonie l'année
oui,
passée.
Oui, c'est ça,
aussi.
Avec vous, avant que tu chantes. Jamie chante super bien. Alors, en effet, c'est ça, il a joué, tu as joué la guitare puis tu as chanté. Puis nous, on a ouvert un peu, je pense, la soirée. Donc, c'est important. On appelle ça des danses pour danser dans la cuisine, dans le fond, kitchen party qu'on dit, mm-hmm. pour danser dans la cuisine. Donc, traditionnellement, on allait puis on faisait juste jouer le violon puis on faisait juste faire avec la claquette. Puis danser, puis avoir du fun, c'était un peu ça. C'était pas trop, tu sais, une performance. C'était juste pour aller danser, pour avoir du fun. Donc, même aujourd'hui, on voit la danse métisse à travers des compétitions. Donc, la troupe de danse ici à Kamloops, on a gagné première place à Batoche. Et puis, on fait de la gigue un peu partout. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi, cette culture-là. Puis, tu sais, quand j'étais petite, je disais « Ah, je veux danser! » Mais c'est tellement compliqué, puis il n'y a personne qui peut m'enseigner ça. Donc, c'est pas toujours facile d'apprendre. C'est très compliqué. Ça a l'air facile, mais c'est très, très, très compliqué. Et donc, oui, je danse. Et puis, également, j'aime beaucoup le tannage de peau. Je trouve que c'est comme une méditation. C'est beaucoup de travail. Mais à travers ce travail-là, ça me permet de mettre toute l'énergie pour guérir, en fait. Parce que c'est comme ça prend de 7 heures le matin jusqu'à 7 heures du soir, puis tu ne peux pas arrêter. La minute que tu arrêtes, ça sèche et ça devient pas la peau comme le cuir. Et donc, tu continues, mais ça me permet de voir ma vie et la façon que j'étais résiliente à travers ma vie, à travers toutes les étapes que j'ai passées. Je ne vais pas rentrer en détail, mais tu sais, ça me permet. Donc, c'est vraiment une méditation, ce tannage pas. Donc, je dis tout le temps que c'est important que nos peuples retournent vers notre culture, parce que c'est notre culture qui va nous guérir, c'est la nature qui va nous guérir.
Tu as mentionné ton travail avec Radio-Canada. J'ai lu un article, je pense que c'est une citation de ton mari, mais vous êtes là pas juste pour vous en tant qu'individu, mais c'est aussi pour le passé, le présent et l'avenir. Et mm-hmm. Je l'ai trouvé vraiment touchant, mais peux-tu élaborer un peu à cette phrase?
Oui, alors, moi, je vais commencer avec la tresse, en fait, parce que la tresse, c'est très important. Donc, moi, mes enfants, si tu les vois, tu vas voir qu'ils ont des cheveux jusqu'aux genoux, puis tous les trois, puis mon mari, on a tous des cheveux longs, puis tout tressé. Donc, la tresse, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est un côté où que chaque matin, on va prendre un moment pour ce lien d'attachement vers nos enfants, puis on va tresser leurs cheveux, mais en même temps, on va prier pour notre communauté, on va prier pour soi et on va prier pour la famille. Et donc, on est là pour tresser et de penser à tous ceux également qui étaient là avant nous, qui n'ont pas eu de voix. Et tous ceux avant nous qui ont souffert. Et tous ceux qui ont été au pensionnat. Et tous ceux qui ont été un vrai génocide au Canada. Donc, ça nous permet de faire une réflexion sur le passé. Et c'est trois tresses, trois branches. Donc, le passé, on reconnaît le tort au Canada, on reconnaît qu'on est un peuple qui a souffert, on reconnaît que, mais qu'on est résilient et on est encore là, mais que tout ce savoir-faire a été transmis. Il y a de la transmission qui a été faite. Et tout le mauvais a aussi été transmis. Donc, on parle de traumatisme intergénérationnel. Donc, on pense à ça. On pense au présent aujourd'hui, donc on va penser à où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis le travail qu'on doit continuer à faire vers la réconciliation, mais dans nos familles également, pour se réapproprier la culture et la langue et tout, mais aussi le futur. Donc, où est-ce qu'on s'en va? puis de donner des bonnes pensées de où est-ce qu'on s'en va et vers la réconciliation. Donc, c'est pas juste, on n'est pas rendu là à la réconciliation, on est vers la réconciliation. Donc, on réfléchit à tout ça le matin. C'est comme, puis là, quand on a fini cette tresse-là, c'est comme le passé, le présent et le futur qui est là avec nous et on fait des prières pour des gens autour de nous. Donc, c'est un peu, c'est, si on parle du passé, présent et futur, je le vois avec la tresse qui représente quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est une extension de notre système nerveux et c'est pour ça qu'on ne coupe pas nos cheveux. Donc, tu peux imaginer au pensionnat quand ils ont coupé les cheveux, comment ça a été traumatisant pour nos communautés quand les cheveux, c'est quelque chose qui est le plus sacré un peu dans notre communauté. Donc, c'est ça. Il faut tenir compte du passé, des bonnes affaires. Il faut tenir compte de où ce qu'on est aujourd'hui puis où ce qu'on s'en va.
Puis quelque chose assez simple peut contenir énormément de symbolisme aussi.
Oui, puis l'essentiel, c'est l'attachement. C'est le 5 minutes qu'on a une conversation avec nos enfants.
Ça fait combien de temps que tu es installée dans la région de Kamloops?
Dans la région de Kamloops, ça fait à peu près 15 ans, je pense que je suis là. À peu près? Oui, 15 ans. Bien, j'étais dans la communauté de Little Shuswap, donc Squalax, qui se retrouve à 1 heure dans la région de Chase, en Colombie-Britannique. Donc, je vivais là pendant 13 ans. Et puis là, on a déménagé en ville parce que nos enfants étaient à l'école Chief Atom. Donc, Chief Atom, c'est une école d'immersion Sequoia-McChin. Donc, c'est la langue autochtone de la région. Donc, depuis l'âge de 6 mois, donc tout jeune, bébé, ils étaient dans une espèce de language nest. Donc, c'est comme un bâtiment pour apprendre la langue tout jeune. Et ils ont resté là jusqu'à la première année. Et puis, après ça, on a fait un transfert ici à l'école francophone. Donc, au moins, il y a une base dans la langue autochtone. Et donc, on a déménagé en ville. Et on a également des liens avec la communauté, donc sur notre communauté Slugstouse, donc qui est à Cache Creek. Donc,
Mais tu as grandi à Victoria, alors c'était en rencontrant ton mari que oui, t'es
c'est
fait
ça.
Venir
Oui, c'est ça. Donc, j'ai rencontré mon mari, puis il n'y avait pas de poste ici à l'école, et donc je me suis retrouvée à Kelowna. J'ai enseigné à Kelowna, et malheureusement, les feux de forêt ont détruit ma maison, ma maison que j'étais... Donc, je vivais à Okanagan Lake Resort, puis tu sais, j'ai tout vu, la maison où je vivais cet été, qui était toute brûlée. Même chose avec notre communauté à Squalax, ça a tout brûlé aussi. Donc, on ne réalise pas jusqu'à quel point aussi les peuples autochtones représentent 50 % des gens qui ont été évacués de leur communauté. Donc, c'est très élevé et on oublie ça, puis ils sont encore évacués présentement. Donc, on parle de 60 jours et ils sont encore évacués. Donc, j'étais à Kelowna. Après ça, j'ai eu un poste ici. J'ai enseigné, je pense, à peu près 13 ans à l'école, 13, 15, je sais pas, 15 ans peut-être à cette école-ci.
Alors, après tout ce temps-là, as-tu un aspect préféré de vivre dans cette région?
Bien, quoique, c'est très différent. Donc, Kamloops, si moi, tu sais, j'étais prof de 7e année, 6, 7, 8, 9e année pendant longtemps, et puis j'ai enseigné dans les sciences, on découvre beaucoup, j'apprends énormément en même temps, puis j'ai découvert, dans le fond, que Kamloops, c'est la seule place c'est le seul désert au Canada. Donc, tout le monde va dire que c'est Osoyoos, tout le monde... Mais non, si tu regardes vraiment au niveau de la précipitation et tout, c'est vraiment Kamloops qui est connu comme un endroit semi-désertique et est connu comme le seul désert au Canada. Et donc, c'est ça qui était différent de chez nous, où ce qui pleuvait énormément, j'avais l'océan, l'air frais, c'était très, très, très différent. J'arrive ici, les dunes de sable, il fait chaud, chaud, chaud l'été, il fait froid l'hiver, mais pas trop froid, mais froid. Donc, on va où ce que c'est une précipitation, où ce qu'on a presque pas de pluie, où j'étais dans la pluie peut-être à 75 % du temps à Victoria. Donc, tu sais, c'est vraiment jour et nuit. J'aime pas trop la chaleur, donc j'avoue, depuis le début de mon arrivée à aujourd'hui, on dirait que la chaleur monte et monte et monte et monte d'une année à l'autre à cause du réchauffement planétaire avec les feux de forêt. Donc, l'affaire que j'aime le plus ici à Kamloops, c'est les dunes de sable. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis il y a beaucoup de randonnées qu'on peut faire ici. Énormément de randonnées. Et puis, j'admire aussi les peuples autochtones qui sont dans cette région-là, puis leur connaissance sur ce territoire-là. Je trouve que c'est fascinant. tout leur héritage. J'aime beaucoup toute la nature qui se retrouve dans cet endroit semi-désertique-là et les rivières qui se rencontrent, le Thompson Nord et le Thompson Sud, qui fait un genre de delta ou une confluence au milieu. Là, je trouve que c'est quand même beau. Puis, puisque c'est petit, je trouve que le sens communautaire est plus développé ici dans la région comparé dans la grande ville de Victoria. Donc, ce sentiment d'appartenance dans la petite école francophone ou dans l'association francophone ou même dans nos communautés ou même dans la ville, je trouve qu'il y a un sentiment d'appartenance dans la communauté que je n'avais pas dans une autre ville. Puis j'apprécie beaucoup ce sentiment d'appartenance. Et ma place préférée à Kamloops, c'est l'île MacArthur. Alors, le parc MacArthur, j'aime énormément ça parce qu'on a du hockey. Ça fait 3 kilomètres pour faire le tour. T'es un peu dans la nature, sur le bord de la rivière. Et donc, je pense que je passe un moment presque à tous les jours à MacArthur Island, soit en train de marcher, faire du rollerblade, courir sur ma bicyclette de route, hockey, on joue au golf,
au disc golf,
mais au petit golf, au mini-pot en même temps, le soccer, baseball. Donc, tu sais, c'est ma place préférée, c'est vraiment MacArthur Island.
Puis il y a tout à faire, là.
Il y a tout à faire, c'est ça.
Tu parles des petites communautés, je pense que nous autres, on est ensemble, on fait un bon exemple de ça. On se connaissait pas vraiment avant l'année passée, mais tu avais travaillé avec ma mère à l'école francophone ici. Puis j'ai aussi appris que ton mari a grandi avec la famille de ma belle-mère dans
c'est
la
ça.
Région de Cache Creek. Alors on dit tout un petit monde à Kamloops. Puis c'est
oui,
ça, nous autres, on s'est finalement croisés, mais on se connaissait un peu à distance avant ça à cause de notre communauté, c'est sûr.
Oui, c'est ça. C'est tous des liens qu'on peut se permettre de faire dans ce... C'est quand même, je pense, c'est 100 000 habitants, là, Kamloops. C'est pas petit. Mais c'est assez, c'est pas trop grand, c'est comme médium, mais ça nous permet de quand même garder des liens. Donc nous, on a des liens, c'est ça, entre nos deux familles. J'apprécie également d'avoir un autre franco-britanno-colombien ici dans la région également, parce que c'est très rare qu'on peut les retrouver phase adulte, dans le fond.
Avant de terminer, je voulais revenir à ton travail. Quelques centaines d'élèves autochtones dans le district CSF. As-tu une vision où amener ton poste?
Bien, moi, je veux que nos élèves, le numéro un, sachent d'où ce qu'ils viennent. Il y a beaucoup de mes jeunes qui ne savent pas. Ils savent qu'ils ont des racines autochtones, ou ils ont le statut, ou sont métis, ou sont inuits, mais ils ne connaissent pas leur culture. Ils sont tant déplacés de leur maison aussi, parce qu'on vient surtout de l'Est, des francophones autochtones de l'Est. Donc, moi, mon rêve, en fait, c'est qu'ils puissent savoir c'est qui ils sont. Pas juste dire « ouais, je suis autochtone, ouais », mais tu sais, nous, on est quand même douces pour dire « ben, c'est correct », parce que ça a été, tu sais, c'était un vrai génocide qui s'est passé au niveau de l'assimilation de notre culture. Donc, ou l'éradication, je dirais plus, l'éradication de notre culture. Donc, tu sais, je comprends ces enfants-là, mais c'est important qu'ils fassent leur travail également, d'aller se découvrir pour être capable de bien marcher et de connaître qui ils sont pour leur futur. Donc, c'est un peu ma vision chez les élèves. Chez les enseignants, bien, ma vision, c'est que je suis là pour les appuyer parce que tout le monde, c'est comme, là, c'est partout dans notre curriculum, puis ils sont comme, je veux pas faire ça, j'ai peur de faire des erreurs. C'est quoi le protocole? Qu'est-ce que je fais? Donc, on dirait que c'est un peu tabou encore que je dois les guider dans le travail puis leur dire, c'est correct de faire des erreurs. Et là, on a également nos parents. J'essaie de leur donner confiance que c'est correct. C'est correct. C'est correct de parler de tes identités. Ça a été tant caché, peut-être, dans votre enfance. Ça a été tant caché, peut-être, chez vos parents. C'est correct. C'est une place sécuritaire ici. Et donc, j'ai des intervenantes autochtones qui travaillent comme alliées aux parents et aux élèves dans les écoles, qui ont un lien direct avec moi s'il y a du racisme systémique, s'il y a quelque chose qui va mal. Et ils sont comme mes yeux dans chaque école. Et ça me permet de faire mieux mon travail pour aller aider nos jeunes et de ne pas avoir honte de notre héritage.
Bonnie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps dans une journée que je sais énormément occupée pour toi.
Je suis toujours occupée.
Mais j'apprécie énormément que tu es venue pour faire partie du projet du balado Francoloops. Je l'apprécie beaucoup. Merci.
Oui, puis moi, je te remercie, Jamie, de me donner l'opportunité d'avoir une voix. Je dis tout le temps, le plus qu'on puisse avoir et utiliser notre voix, le plus que les gens vont écouter notre perspective. Et donc, c'est important de donner voix au peuple autochtone francophone. Merci.
Hey, merci. Francoloops, présenté par Infonews.ca, est une production originale de l'Association francophone de Kamloops, diffusée en collaboration avec WebWest. Il faut remercier nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et BC Gaming, Erika Tavernari pour la création du logo, Cutting Station Studios pour le thème musical, Jackie Shinkowski pour la photo de couverture, et un énorme merci encore une fois à Bonnie Lépine-Antoine. Finalement, merci à vous d'être à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez de le partager avec un ami, à vous abonner et à nous laisser un commentaire 5 étoiles. Merci et à la prochaine!